Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David.
Que je t'aime.
On sait que Johnny l'avait fait le Parc des Princes et on va parler du PSG.
Ça tombe à pic.
C'est marrant, ouais. Dans la première demi-heure, bienvenue dans les vraies voix du sport. On vous accueille en chanson avec deux thématiques, football et rugby. Bah, la première, on va parler évidemment de ce qu'on appelle le classique, pour franciser le fameux classico espagnol entre le Barça et le Real. Oui, c'est dimanche soir, 21h sur la pelouse du Parc, qu'aura lieu le PSG-OM, le fameux PSG-OM. Et la question qu'on va se poser dans quelques instants, PSG-OM, est-ce encore le match de l'année en Ligue 1? Et vous n'êtes pas franchement convaincu sur Twitter que ce soit encore le match de l'année. À partir de 19h30, ce soir, il va pas falloir voter pour oui ou non sur le rugby. On va se poser la question de savoir si le bilan des Bleus à la Coupe du Monde est positif, négatif ou ni l'un ni l'autre, en plus un peu oui-non abstention, vous savez, comme pour les députés ou les sénateurs comme quand ils votent. Vous voulez réagir, vous appelez le 0826 300 300 et le standard va exploser tout à l'heure parce qu'on va vous faire gagner 2 fois 4 places pour TFC-OL. Tiens, deux clubs qui viennent de changer d'entraîneur, c'est mieux pour le TFC qui a gagné alors que l'OL a perdu, en plus en battant Lille, qui fait une campagne, vu ses moyens, corrects en Ligue des Champions. Restez bien donc avec nous, il y aura 2 fois 4 places pour TFC-OL, ce sera le 2 novembre 2019 au Stadium de Toulouse. Allez avec nous, on va commencer par une voix féminine, Lucie Brasseur, auteur du livre Mi-Foot aux éditions du Rêve. Salut Lucie.
Bonjour, comment ça va?
Et toi, bienvenue sur Sud Radio.
Merci.
C'est Jabai Vinda, comme tu es franco-brésilienne. Avec nous, Julien Leclerc, qu'on connaît également, entraîneur de foot amateur et grand fan, et de rugby également. Salut Julien.
Salut Philippe, je viens de chanter à la radio, comme dirait l'autre, je peux mourir tranquille.
Ça c'était le 12 juillet 98, Thierry Roland. Et on a l'auteur, un des co-auteurs du livre Une histoire populaire du PSG 1970-2020, 50 ans de passion Paris United. C'est écrit, c'est édité pardon, chez Hugo Sport, Clément Pernia pour sa première. Salut Clément.
Bonsoir Philippe,
bienvenue
merci
sur Sud Radio. Et puis Jim est déjà là pour parler rugby. Jim Gollard, membre du comité directeur du Stade Français. Il a même mis l'uniforme là.
Bonsoir à tous.
Tu vas bien Jim?
En grande forme.
Allez, on va commencer avec le foot comme d'habitude. Les amis, pour le moment, vous êtes très minoritaires à penser que le PSG-OM de dimanche soir est le grand match de la Ligue 1, puisque vous êtes que 21% à le penser. Alors tiens, on va commencer avec toi Clément, comme c'est ta première et que t'as écrit, c'est un superbe bouquin pour les supporters du PSG et les amoureux du foot. Est-ce que pour toi c'est encore le classique, le choc, comme il y a un Barça-Real, un Dortmund? Parce qu'on regarde le classement, aujourd'hui PSG premier, Marseille quatrième, d'accord, mais à 8 points, alors que quand tu prends un Barça-Real, il n'y a jamais ou très exceptionnellement 8 points d'écart.
Ça ne vaut sûrement pas un Barça-Real, mais j'aimerais bien savoir quel est le match de l'année pour les 79% des personnes qui disent non. C'est le classico, les deux plus grands clubs français, les deux plus beaux palmarès du pays. Et c'est surtout les deux clubs qui génèrent le plus de passion, qui attirent le plus de monde au stade. Donc évidemment que ça reste le match de l'année, même s'il y a d'autres matchs, même si en termes sportifs, purement sportifs, il y a le Lyon-Marseille qui est peut-être plus attrayant.
Et Lyon-Saint-Etienne.
Lyon-Saint-Etienne, mais c'est pareil, c'est plus d'un point de vue passionnel et c'est parce que c'est le derby. Mais je veux dire, ça reste les deux plus grands clubs français et évidemment que le Classico reste l'affiche française.
T'es d'accord avec ça, Lucie? Est-ce que pour toi, c'est encore le match numéro 1 de la Ligue 1?
Je suis assez d'accord quand tu dis qu'en Espagne, quand on a un Real Barça, on a un suspense, quoi.
Oui, mais il n'y a plus de suspense du tout en Ligue 1.
Mais justement, le problème, il est là. C'est qu'à partir du moment où tu regardes qu'au cours des 10 dernières années, sur 23 matchs, il y en a 17 qui ont été gagnés par le PSG.
Je te coupe, Lucie, et depuis 8 ans, il n'y a plus de victoire de l'OM, depuis l'arrivée des Qataris, en clair.
Oui, parce qu'il y a 1 milliard d'euros de différence de budget. Donc, est-ce que c'est le match de l'année? Je ne sais pas.
Et pour
ça
toi,
dépend
Julien,
d'où on se situe.
Est-ce que c'est encore le match de l'année, le PSG-OM? En fait, on nous l'a vendu comme le match de l'année au milieu des années 90, quand il y avait Tapie d'un côté, Canal de l'autre, et Tapie avait expliqué d'une manière fabuleuse, il dit, oh, c'était tous des potes, les dirigeants du PSG, des dirigeants de l'OM et vice-versa, mais on s'est dit, il n'y a pas de grand choc en Ligue 1, parce qu'à l'époque, Saint-Etienne n'allait pas bien,
Marseille
Lyon
était
en train de naître, et Marseille était seul, ils se sont dit, faut qu'on fasse un choc, en plus, c'est bien, c'est Paris contre la province,
oui,
etc.
Oui, c'est très emblématique de cette lutte Paris-Province, Marseille étant un peu la ville porte-parole de toute la province. Moi, j'ai tendance à penser que non, franchement, c'est plus le match de l'année, parce que pour qu'il y ait une rivalité, faut une rivalité sportive. J'ai l'impression qu'on rame un peu pour nous vendre une grande rivalité entre ces deux villes, qui n'est pas celle de Lyon et Saint-Etienne. Un Lyon-Saint-Etienne, on le sent, c'est un derby hyper chaud. En plus, une rivalité sportive aujourd'hui, parce que Lyon est quand même pas super bien en point. Maintenant, on vient de croiser un de vos invités en entrant dans le studio, et on lui donne le sujet, il nous dit « Ouais, c'est vrai, mais on va quand même tous le regarder ».
C'est vrai. On peut balancer qui c'est. C'était Philippe Bilger. Alors Philippe Bilger est un fan de foot et de rugby. Et en parlant, il disait oui, c'est déséquilibré, mais on va tous le regarder.
Il a raison. Il n'y a plus de rivalité sportive. Paris va gagner. Paris a eu point d'avance. On a en souvenir des grands moments, mais quand même, on va tous le regarder.
Ouais, c'est simple. Hein, tu demandes à un supporter de l'OM en début de saison quel match il veut gagner, c'est contre Paris. Tu demandes à un supporter du PSG.
Il a oublié de prévenir son entraîneur, visiblement.
Symboliquement, c'est
tu demandes à un supporter du PSG quel match il veut gagner absolument dans la saison, c'est Marseille. Et les supporters ne tolèrent pas, alors surtout désormais maintenant du côté du PSG, les supporters du PSG ne toléreraient absolument pas une défaite contre l'OM.
Je sais pas. Je pense qu'ils préféreront une demi-finale de Ligue des Champions.
Oui, ça c'est pas faux. Si on leur propose une victoire en Ligue des Champions, là n'en parlons pas.
Voilà. Alors enfin, justement, si tu fais une demi-finale de Ligue des Champions et tu perds contre l'OM, les supporters ne sont pas contents.
Ça c'est vrai.
C'est factuel.
Justement, Clément, quand tu vois l'histoire du PSG, il y a eu des PSG-OM qui resteront dans les mémoires. Moi, si je devais en garder qu'un, c'était de mémoire le 11 mars 2003 avec le festival de Ronaldinho au Vélodrome. But de Jérôme Leroy en fin de match. Est-ce que pour toi, le match de dimanche, ça peut être un match qui vire au mythique? Alors, dans un sens ou dans l'autre, un PSG Mbappé qui nous fait un festival genre Bruges et qui plante 5 buts comme il en avait mis 4 l'an dernier à Lyon.
Soit un but de légende, soit une victoire de l'OM au Parc. Si Marseille gagne au Parc, là, ça peut être un match de légende du côté de l'OM puisque ça fait 2010, donc ça fait 9 ans qu'ils n'ont pas gagné. Donc s'ils gagnent d'une manière un peu spectaculaire avec un scénario rocambolesque à 10 contre 11... Côté PSG, ce ne sera pas un match légendaire puisque le PSG est tellement au-dessus. Nos camarades l'ont rappelé juste avant. Je ne pense pas. Il n'y a plus assez de rivalité sportive aujourd'hui pour que, quel que soit le résultat final, ce soit un match qui entre dans la légende.
Tu peux avoir deux choses. Il y a quand même des grands souvenirs de ça. Tu peux avoir une tôle monumentale quand même parce que là, Paris arrive en forme.
Un 9-0.
Et là, ça peut faire très très mal. Surtout que tu as en face un entraîneur qui a l'air de préparer un peu psychologiquement la défaite de ses joueurs. Moi, je garde quand même en souvenir un truc.
On peut dire que Villas-Boas, et c'est pas Otis Redding, si je faisais une comparaison.
Lui, il a pas pigé que c'était un match. Je pense que ce match est beaucoup plus important pour les Marseillais que pour les supporters parisiens aujourd'hui, qui, encore une fois, ont un gros espoir au niveau européen. Moi, je garde en mémoire un souvenir assez particulier. C'est le 0-0 de Pape Diouf, quand Pape Diouf décide d'envoyer la CFA parce qu'on refuse de mettre plus de supporters que ça, Marseillais.
Ah oui, là, c'était un match de contre-légende pour les Parisiens.
Marseille chope 0-0. Mais le discours, si Clément s'en rappellera certainement, il a étudié ça beaucoup plus que moi. Le discours, c'était on envoie les minots, mais on n'y va pas pour faire de la figuration. Résultat, il sort 1-0.
Ah, mais il s'était mis chiffon, les gars. Oui. Lucie.
Enfin, aujourd'hui, il a quand même rappelé que... Il venait pas pour faire la fête de Paris, quoi. Enfin,
ah non, mais c'est sûr.
Il vient quand même faire le jeu. Après, si on parle de risque de tôle monumentale, il y a un autre PSG-OM dimanche après-midi.
Féminin.
Les filles. Oui. Il y a les filles qui jouent les mêmes équipes. Et là, par contre, on sait que c'est la première saison de l'OM en D1, donc on se dit qu'il y a grande chance qu'il y ait tôle, d'autant que exceptionnellement Paris est en haut du classement,
Même devant Lyon. Juste, oui, tu veux réagir.
Simple parenthèse par rapport aux filles, les féminines du PSG ont une chance comparé aux autres clubs de Ligue 1, c'est qu'elles ont un fan club derrière elles qui est assez incroyable. C'est le seul club, le PSG, où les ultras, donc les supporters du PSG qui supportent les garçons, supportent de la même manière les filles. Alors ils sont un peu moins nombreux, mais à chaque match et chaque déplacement des féminines, les supporters du PSG sont extrêmement nombreux derrière, et mine de rien, quand on leur demande, ça les booste vachement.
Oui, bien sûr.
On va jouer ensemble. Est-ce que vous voulez gagner 4 places pour Toulouse Football Club Lyon, TFC Lyon? Ce sera le samedi 2 novembre 2019. Deux clubs qui viennent de changer d'entraîneur, tiens, avec l'arrivée de Rudy Garcia et d'Antoine Comboiré. Allez, on va faire une cote mal taillée. Le foot, ça se joue à 11. On met quel chiffre? Tiens, allez, DJ Pif, tu me dis dans le casque. Allez, tu veux le 6? Eh bien, le 6e appel au 0826-300-300. Bon, pourquoi il m'a dit 6? Tu joues à demi-défensif? Non, même pas. Ah, il pensait à Makelele. Ah oui, joueur qui a joué d'ailleurs.
Excellente référence.
Absolument, absolument.
Pas très grand entraîneur.
Oui, mais alors, 4 poumons, pas de rate. Le 6e appel au 0826-300-300 gagne 4 places pour TFC Lyon. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David.
Et dans cette première demi-heure, on parle football. Oui, le classique, le classico, Paris Saint-Germain, Marseille, Parc des Princes. Dimanche prochain, 21h. Et pour le moment, vous n'êtes que 21% à penser que c'est le grand match de l'année en Ligue 1. Alors, on va parler de ce match parce qu'il faut bien en parler. Clément, tu t'appellerais Villas-Boas. Tu mettrais même pas l'autobus devant la surface de réparation, tu mettrais le porte-avions Charles de Gaulle. Quand tu vois l'état de le potentiel offensif du PSG en la deuxième mi-temps à Bruges, parce que sinon tu dis, il faut qu'ils mettent, comme pour nos amis du rugby, un tableau d'affichage à deux chiffres.
Justement, c'est cette réflexion qu'il ne faut pas avoir, justement. Oui, l'OM n'a absolument rien à perdre. Et d'ailleurs, le discours de Villas-Boas, il est terrible. Il est terrible. On vient à Paris, c'est pas un match important, il y a un écart abyssal, etc.
Ah bon, il te dit, ouais, il y a trois points à prendre, comme contre Dijon ou...
Mais c'est quoi ? Moi, je suis supporter de l'OM, je suis fou, quoi. À un moment donné, t'as rien à perdre, tu viens contre le PSG, tu sais que t'es pas favori, tu sais que normalement, tu devrais perdre, mais propose du jeu. Viens avec des idées offensives. De toute façon, tu sais que tu vas perdre, normalement. Donc, quitte à tes supporters, tu vas pas leur proposer un autobus devant la défense, ils vont se faire chier pendant 90 minutes, enfin je sais pas, propose-leur une idée de jeu, attaque, je sais pas, Bruges l'a essayé de le faire mardi contre le PSG.
Ça a
tenu une mi-temps et puis ils ont fait plaisir à leurs supporters. Les supporters de Bruges, ils étaient...
Franchement, moi j'ai trouvé que Bruges avait pas été du tout ridicule la première mi-temps. Hein.
Voilà, c'est ce que l'OM doit faire, alors je ne sais pas s'ils en ont les capacités, notamment physiques, mais à un moment donné tu viens au parc, t'as rien à perdre, ça fait 10 ans que tu perds contre le PSG. Enfin, je sais pas, viens avec un peu d'idées, d'ambition, au moins par respect pour tes supporters.
Il a annoncé ça aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il est revenu sur ses propos de la semaine dernière en disant
que... Ouais, mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard.
Ah, ça rassure un peu les supporters ou pas. Enfin, est-ce qu'on peut les rassurer ? Je ne sais pas.
Je pense qu'il... Étant éducateur, c'est des choses que j'ai déjà pu faire où tu prépares ton groupe en fait, à une éventuelle défaite en le fixant sur après. Et c'est vrai que je pense que Villas-Boas sera quand même finalement plus jugé sur Monaco, Lille, Lyon, c'est des choses qui ont été très reprochées à Rudy Garcia, ce manque de résultats contre les gros, plus que sur le résultat de Paris. Maintenant, c'est vrai que quand tu es entraîneur de Marseille, tu peux pas galvauder ce match-là, t'as pas le droit, quoi. Là où je rejoins complètement Clément, c'est que je pense que Marseille n'a absolument pas les qualités défensives aujourd'hui pour jouer l'autobus. Ils ont un excellent gardien de but, là. Ils ont Mandanda qui est en pleine forme, qui est en pleine bourre. Mais derrière, ils peuvent pas jouer l'autobus. Et Paris est jamais autant emmerdé que quand on vient couper les relances des défenseurs centraux ou de Verratti, etc. Il faut qu'ils aillent les chercher. Il faut qu'ils aillent les chercher, sinon ils sont morts.
Et puis, admettons qu'ils mettent l'autobus et qu'ils obtiennent un 0-0. Mais que le match soit vraiment mauvais.
Une horreur, une pure
horreur. Vous croyez que les supporters de l'OM vont être contents ? Vous croyez
crois qu'avec un 0-0, ils seront contents.
Non, moi je pense que si le match est exécrable, bah Paris va manger, mais si le match est exécrable, les supporters seront pas contents. Et vous croyez que dans les médias, on va dire bravo, l'OM a fait 0-0. Non, alors que si l'OM.
Ah, si, dans la Provence, la Marseillaise, etc. Je peux te dire que dans la PQR, ils vont le dire.
D'accord, mais dans les vrais médias, je veux dire.
0-0.
On le tacle. Mais c'est du Colter des grandes années.
Ou du Dimeco côté Marseille.
Ouais, ou du Dimeco côté Marseille.
Si l'OM vient perdre 3-0, mais que l'OM fait un Lyon 2018, c'est-à-dire qu'ils viennent proposer du jeu qui bouscule le PSG, bon, on dira c'est normal, l'OM a perdu, mais l'OM a bien joué à proposer des choses, alors que le PSG s'est fait bousculer. Enfin, moi, je pars du principe que quand t'es pas favori et quand tu joues un classico, tu proposes du jeu et tu fais plaisir à tes supporters.
Lucie, c'est vrai que tu t'appellerais Villas-Boas, tu serais plutôt tenté. T'aurais la vision romantique de notre ami Clément. Je rappelle qu'il a écrit, je le montre pour le Facebook Live, une histoire populaire du PSG publiée chez Hugo Sport. C'est un bouquin. Alors, pour les fans du PSG, il faut impérativement le lire. Et est-ce que tu serais pas tenté de dire, moi, je joue le 0-0 parce que si tu te prends une valise, comme on dit, ça fait mal.
Un peu,
quoi.
En fait, il est très probable qu'il se prenne une valise, pour reprendre ton expression. Et
parfois, c'est même une malle.
Voilà. Voir le train entier. C'est très compliqué de dire ouais, on y va pour gagner, alors qu'en fait tu pars vraiment très très peu favori. Donc tu peux pas après regarder tes supporters droit dans les yeux, les journalistes locaux, parce que même si c'est pas des vrais médias, peut-être au quotidien ils
c'est
sont
une boutade.
Ils sont, je sais, au quotidien c'est eux qui sont là, quoi.
Mais justement, Julien, quand tu vois le PSG, Neymar n'est pas là, Cavani, quand tu vois le PSG jouer contre Bruges, tu te dis Cavani, est-ce qu'il va retrouver un poste sur le terrain ? Et là, c'est la question, je veux extrapoler un peu, parce qu'il est encore blessé pour 3 semaines. Neymar, tu vas le mettre où ?
Je pense que...
Quand il va revenir ?
Je pense que l'enchaînement des matchs,
s'il revient.
Le match, oui. L'enchaînement
tu penses qu'il va partir au Mercato, toi, c'est
non,
bien.
Non, je pense pas qu'il va partir, mais il est régulièrement blessé.
Oui. Je pense que l'enchaînement des matchs va sauver Tourelle sur ces questions-là. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que Marseille ne peut pas jouer l'autobus, c'est que Paris a... maintenant un attaquant de surface, ce qu'ils n'avaient pas forcément avec Cavani. Icardi est un vrai attaquant de surface. Ouais. Je pense qu'ils ont des facultés extrêmement différentes l'un et l'autre.
Ouais.
Donc Cavani est un gros gros bosseur, plus défensif, plus acharné qu'Icardi.
Il passe du 6 mètres d'une surface à l'autre.
Je pense que Cavani, alors ce ne sera pas le cas là, Tourelle est très protecteur de ses joueurs, très prudent avec la santé de ses joueurs cette année. Donc Cavani démarrera sur le banc et fera un quart d'heure. Je pense que Cavani est plus un titulaire en puissance qu'Icardi. Il va fatiguer les défenses. Icardi viendra terminer le boulot. À mon avis, il sera plus comme ça cette année. Neymar jouera à la place de qui? Sortir Di Maria en ce moment?
Ah bah c'est un peu compliqué parce que c'est extrêmement compliqué. Si on regarde bien, il y a même l'équipe, je crois que c'est l'équipe qui a fait de l'humour cette semaine en marquant Di Maria Ballon d'Or point d'interrogation. Mais quand tu vois les démonstrations qu'il fait en ce moment en Ligue des Champions, c'est exceptionnel.
C'est étonnant parce que c'est un joueur qui historiquement quand même est très en dilettant dans tous les joueurs, dans tous les clubs où il est passé. Il a eu des moments très forts et des moments très faibles. Avec Paris, il est d'une régularité assez incroyable.
Un métronomique là en ce moment, Clément.
La problématique, elle va être assez claire. C'est-à-dire que quand Neymar va revenir, Neymar va jouer.
Mbappé, au prix où il est payé,
voilà. Voilà. Mais Mbappé va jouer. Ah oui, et Di Maria est absolument indispensable en ce moment.
Il peut le mettre dans l'axe sur un 4-3-3. Voilà.
Soit il aligne les trois devant. Et il sort Icardi et Cavani, il les met les deux sur le banc.
Oui, mais c'est les deux attaquants, les deux renards de surface.
Oui, à un moment donné, il devra faire un choix.
Ah oui.
Ou soit, il met Icardi devant et il recule Di Maria en milieu, comme l'avait fait Carlo Ancelotti au Real Madrid en 2010.
Moi, je crois plutôt à ça.
Et c'est une hypothèse. Après, faut pas oublier que
le sapin, on va retrouver le sapin.
Non, faut pas oublier que dans les grosses affiches de Ligue des Champions, le PSG a un équilibre défensif à assurer quand même. Et que si tu mets et Di Maria et Mbappé et Neymar et Icardi ou Cavani, tu vas avoir des problèmes. Après, c'est du foot fiction. On connaît tous le PSG.
Il y aura des blessés, des suspendus.
On connaît tous le PSG. On sait tous que Neymar en février, il se refait la cheville.
Et du coup, c'est intéressant avant les huitièmes de finale de Ligue des Champions parce que maintenant, avec 9 points, ils sont qualifiés.
Vu la stat cette semaine, il y a une stat terrible.
Ah oui, j'ai vu les stats de ses blessures.
Mais depuis qu'il est au PSG, il a joué autant de matchs qu'il en a raté.
Non, mais là, il s'est blessé en octobre, il jouera en mars.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Tiens, dernière question avant d'avoir notre gagnant des 4 places. Votre pronostic pour dimanche soir, Clément?
4-0 pour Paris.
4-0 pour Paris. Lucie?
Non, je vais mettre 3-0.
Et 1 et 2 et 3. Et toi, Julien?
Moi, je pense qu'il y aura quand même un but de Marseille. Parce qu'ils ont quand même un avant-centre franchement en forme. Allez, 5-1.
5-1, ah oui, ça fait quand même très mal. Et maintenant, on va prendre notre gagnant. C'est pas pour PSGOM, mais c'est pour une belle affiche. C'est pour TFC. Alors, c'est comme ça qu'on appelle le Toulouse Football Club. Pour les Toulousains, TFCOL, nous sommes avec Farouk de Toulouse. Salut Farouk.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Bah, vous avez gagné 4 places pour aller voir TFCOL. Ce sera le 2 novembre prochain au Stadium. Content?
Super, super content, bien sûr.
Vous allez y aller avec qui?
Avec les deux fils et mon épouse.
Oh bah super. Vous êtes supporter du TFC naturellement, vous allez de temps en temps au stadium?
Obligatoirement, on est de Toulouse, bien sûr.
Et alors, l'arrivée de Comboiré, ça vous fait quoi? Vous êtes content?
Oui, on verra ce que ça va donner.
Eh ben on verra ce que ça va donner, on espère que le TFC, on salue nos auditeurs toulousains, va se maintenir cette année et faire et plus si affinité, comme on dirait. Bravo à Farouk de Toulouse qui a gagné 4 places et on va vous en faire gagner 4 de plus dans la prochaine demi-heure et dans quelques instants, on va parler rugby. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David.
Et on passe du ballon rond au ballon ovale. Oui, j'ai oublié de vous dire, vous êtes 61% à penser justement que le PSGOM n'est plus le grand classique du rugby français. On va maintenant donc parler de rugby. Et là, vous avez 3 votes. Pour la première fois, on a fait ça. Selon vous, le bilan des Bleus à la Coupe du Monde de rugby est-il positif, négatif ou ni l'un ni l'autre? Vous êtes 24% à penser que le bilan est positif, 36% à penser qu'il est négatif. Et si vous êtes bon en maths, vous savez que 40%, c'est donc la majorité, disent ni l'un ni l'autre. On est toujours avec nos invités, auteur de Mi-Foot, mais qui va rester avec nous pour le rugby, Lucie Brasseur, Julien Leclerc, qui aime le foot, le rugby, coach également. Clément Pernia, auteur de Une histoire populaire du PSG, est resté avec nous, édité chez Hugo Sport. Jim Gollard, dirigeant du Stade français, nous a rejoint avec un superbe survêtement Paris. Tu vas bien, Jim?
En grande forme, c'est bientôt l'heure de l'apéro. C'est...
Et bien sûr, notre consultant, Philippe Spanghero. Salut Philippe. Philippe? Ah, on a calé Philippe Spanghero.
Oui, je suis là.
Alors, on va commencer avec toi, Philippe. Est-ce que tu termines de nos émotions de dimanche dernier en compagnie de Xavier Barret, notamment, où on a vraiment passé de drôles de moments au micro de Sud Radio pour ce France-Galles?
Oui, je m'en suis remis. Puis surtout, à froid, on peut faire un peu l'analyse de tout ça. Et puis, je crois qu'on va en parler pendant une demi-heure parce qu'il y a pas mal de choses à dire suite à ce match et cette défaite d'un point qui nous prive d'une demi-finale.
Alors justement, je vais vous poser la question à vous tous, le sondage du soir sur Sud Radio. Vous êtes 24% à penser que le bilan des Bleus à la Coupe du Monde est positif, 36% négatif, 40% ni l'un ni l'autre. Tu aurais voté quoi, Philippe ?
Moi, j'aurais voté positif. J'aurais voté positif parce qu'il faut se souvenir qu'avant cette compétition, on n'était vraiment pas sûr de sortir des poules. On avait très peur de cette équipe d'Argentine. On sort des poules, on joue un quart de finale. Et puis, moi, le premier, au-delà du résultat, j'étais très déçu par la manière de cette équipe de France depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. On disait que cette équipe manquait de caractère, manquait de leader, manquait d'aspérité. Et j'ai trouvé sur ce match contre le Pays de Galles qu'on a retrouvé pas mal de ces choses qu'on avait perdues dans le caractère. On a vu des joueurs très volontaires, combatifs, acharnés en défense sur leur ligne à la fin parce qu'on a eu un dernier quart d'heure quand même très compliqué en infériorité numérique. Donc pour moi, le bilan est malgré tout positif. On sort des poules, on craignait de ne pas en sortir. Et puis on sort sur une défaite, certes, mais avec quelques certitudes pour la suite sur des joueurs, des jeunes joueurs qui, j'espère, formeront l'ossature de la Coupe du Monde 2023, qui sera une échéance importante pour nous.
Mais surtout qu'elle se jouera chez nous. Jim, tu aurais voté quoi ? Ou tu as voté positif, négatif, ou ni l'un ni l'autre, le bilan des Bleus au Mondial ?
Plutôt positif.
Peut-être sur la même ligne que Philippe, alors ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Malgré les résultats des 10 dernières années, l'équipe de France a fait quand même une courte Coupe du Monde, mais plutôt bonne. Plutôt
avec un match en moins pour cause de typhon en plus. Donc ça, c'était du jamais vu.
Match en moins, et il y a quand même des très beaux joueurs, une belle équipe, des joueurs qui se sont révélés à des postes. On pense au petit Ntamack, enfin plein, tous ces gens-là. Donc non, très positif.
On va parler justement après des perspectives pour 2023. Julien, tu aurais voté quoi ou tu as voté quoi ? Positif, négatif ou ni l'un ni l'autre ?
Je voterai ni l'un ni l'autre parce que je trouve qu'il y a effectivement des enseignements positifs qui ont été tirés. On n'attendait rien. On n'attendait rien et on a eu des émotions.
Comme le disait Philippe, on n'était pas sûr de sortir des poules.
Non, on disait qu'on ne sortirait pas. On est sorti. Je trouve qu'on a énormément galvaudé la victoire contre l'Argentine. Ce n'était pas du tout gagné d'avance. On les a battus. Donc
surtout
qu'ils
nous avaient battus deux fois en 2007 en Coupe du Monde.
Ouais,
chez nous.
Bon, c'est des gens qui ils ont pris l'habitude de nous taper régulièrement quand même. On les bat, on sait à partir de là qu'on va sortir. Et il y a beaucoup d'émotions très positives contre le Pays de Galles. Pourquoi ni l'un ni l'autre ? Parce que je pense qu'on évite, là je fais de la fiction, pardon, mais je pense qu'on évite une branlée monumentale contre les Anglais à cause des circonstances que l'on connaît, dramatiques. Et puis ni l'un ni l'autre, parce que quand même, on est la France, c'est la Coupe du Monde de rugby, et on sort en quart. Et c'est pas suffisant.
C'est sûr. Alors, c'est pas la première fois où on perd en quart. Il y a 4 ans, on avait déjà perdu en quart. Et en 91 aussi, on avait perdu en quart. Clément, tu aurais voté quoi pour positif, négatif ou ni l'un ni l'autre ?
Deux choses d'une. Soit on pense comme toi, Philippe, et on dit j'aurais préféré perdre un 40-10, on n'aurait pas été déçu parce que le scénario est trop dur.
Je peux te dire, on faisait le match en direct sur Sud Radio avec Xavier Barret, Philippe Spanguero. Je peux te dire qu'on l'avait sec à la fin du match, franchement. Il y avait Romain Hamelot avec
nous aussi. Soit on se dit qu'on a vécu des émotions, ils nous ont fait rêver pendant 80 minutes. Et mine de rien, on a quand même vécu quelque chose, on a vécu une aventure. Je sais pas, c'est... Moi, je serais plutôt tendance à penser que je préfère prendre un 40-10 et ne pas souffrir avec un scénario terrible, parce qu'on met deux poteaux quand même. Deux poteaux
qui jouent le match,
être décisifs. Donc voilà, j'aurais plutôt tendance à dire...
Plutôt négatif. Et toi, Lucie, tu voterais positif, négatif ou ni l'un ni l'autre ?
Moi, je suis partagée parce que...
Donc, tu votes ni l'un ni l'autre.
Ouais. Et en même temps...
Moi, j'avoue, j'ai voté ni l'un ni l'autre.
Et en même temps, plutôt positif. Tu vois, je suis entre les deux parce que je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que si on regarde du sport, c'est justement pour vivre des émotions pareilles, quoi.
Ah, on a vécu de sacrées émotions. Justement, Philippe, est-ce qu'il n'y a pas... Ce qu'il y a d'autant plus rageant, c'est que le match où on a été les meilleurs... contre le meilleur adversaire qu'on avait joué dans cette compétition, parce que les Argentins étaient meilleurs que les Gallois étaient meilleurs que les Argentins, les Tongiens ou les Américains. Est-ce que c'est pas ça qui donne vraiment mal au cœur ? Parce qu'on a fait on a fait notre meilleur match contre la meilleure équipe et on perd d'un point sur rien.
Non, parce que tu sais, c'est pour ça que je te disais que c'est intéressant d'en parler à froid, parce que quand on analyse le match, bon, on a été assez dur à chaud sur le moment avec Sébastien Vanina, parce qu'on ne va pas y revenir, mais on parle d'une faute professionnelle grave à ce niveau-là qui certainement coûte le match.
Ah oui.
Mais malgré tout, il y a beaucoup d'erreurs de jeunesse de cette équipe. Bon, il y a Romain Ntamack qui fait un très bon match, mais qui malgré tout laisse passer 5 points qui sont des points importants sur ce type de match. Et puis sur l'action, je l'avais dit à la mi-temps, mais on est ultra dominateur en première période et on concrétise plutôt pas trop mal nos temps forts. Mais les Gallois, on voit ce qu'est une grande équipe. Ils ont été arc-boutés pendant 30 minutes en première période. Ils prennent deux pénalités.
Oui.
Donc, malgré tout, ils se désunissent jamais. Ils ne nous laissent pas du tout l'opportunité de, on va dire, de tuer le match. Donc, à la mi-temps, j'avais souligné ça. J'avais dit que c'était difficile, malgré tout, de se réjouir parce que les Gallois, on n'arrivait pas à les faire craquer. Et puis, en deuxième période, on déjoue complètement parce que sur le carton rouge de Sébastien Vamina, il y a une pénalité. On est à la 50e, on mène de 9 points. On ne prend pas les points au pied. C'est une très grosse erreur d'appréciation. Et puis, sur la pénale touche qui suit, Sébastien Vamina prend le carton rouge. Ensuite, on a à nouveau un temps fort à 14. On a une mêlée à 5 mètres des Gallois.
Et...
on ne se met pas à 8 pour la pousser. On reste à 7. On perd le ballon sur notre introduction. Bon, enfin, voilà. Il y a beaucoup, malgré tout, dans le contenu, quand on fait l'analyse un peu plus poussée, d'erreurs. Tactique qui à ce niveau-là coûte cher. Donc le match ne se joue pas qu'au carton rouge de Sébastien Vamina et l'enseignement, c'est de se dire que j'espère que c'est le genre de match en effet qui fera grandir la génération de jeunes joueurs comme Antoine Dupont, comme Romain Tamac qui j'espère formeront l'ossature de l'équipe de France qui doit préparer 2023. Alors j'avais mis quelque chose sur Twitter en disant voilà, il y a de belles perspectives pour 2023 et il y a des gens qui m'ont dit oui mais 2023, c'est loin, il y a des échéances avant, bien sûr qu'il y a des échéances avant, mais cette équipe doit se préparer à partir de maintenant pour préparer une échéance importante qui se jouera chez nous en 2023.
Jim Gola.
Voilà pour l'analyse. Après, juste pour finir, c'est vrai qu'on a réussi à faire déjouer les Gallois, qui reste une grande équipe, mais malgré tout, on perd le match.
Oui, et à la fin, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et là, malheureusement, il y avait une note de moins de notre côté. Jim, qu'est-ce que tu veux répondre à Philippe ?
Non, mais on a la même analyse.
Les grands esprits se rencontrent.
Je ne te fais pas dire, mon cher Wilson. Non, la seule fois où on aurait pu prendre les Gallois, c'était le week-end dernier. Ça, c'est évident. Ils étaient un tout petit peu en dessous de leur niveau actuel. Ils s'étaient fait casser la tête par les Fidjiens. Nous, on avait un match en moins. On était plutôt frais. D'ailleurs, on fait une très belle début de première mi-temps.
Oui.
Au bout de 10 minutes, on mène 12-0.
On met deux essais.
On mène 12-0, ce qui est plutôt correct. Moi, je retiens deux, trois choses qui sont assez négatives. Il ne faut pas oublier que notre ami capitaine Guilhem Guirado fait une percée de 200 mètres. Il vient exploser comme un pop-corn. Et il y a essai en contre sur cette action-là. Et la deuxième chose, c'est que...
On prend un essai bête en première mi-temps, il faut être
celui-ci,
franc.
Celui-ci.
Et parce qu'il est vraiment évitable, celui-là.
Mais je ne comprends pas comment on peut exploser.
Ah bah il part tout seul à l'essai. En plus, c'est un troisième ligne, ce n'est pas un trois carrel à un mec qui court le 100 mètres en 11 secondes. Quoi.
Pour moi, c'est quasiment aussi grave que de prendre un carton rouge sur un coup de coude, sincèrement. Hein. Et la deuxième chose qui m'a un peu surprise et choquée, c'est le départ d'Olivion sur la mêlée enfoncée à la 74e,
oui.
Qui va s'emplâtrer contre du mêlée. Bon, ça peut arriver. J'ai rarement vu un troisième ligne se faire arracher un ballon par un mêlée. Quoi. Moi, j'ai joué 30 ans à la mêlée. J'ai jamais pris un ballon à un gros. Ça, j'arrive pas à comprendre. Donc après, il y a cet en avant, il y a cette vidéo, etc. Ça, c'est un autre sujet.
Oui, c'est un autre sujet.
Mais je trouve qu'il y a autant Olivon a fait probablement. Enfin,
il a fait un très bon match.
Très bon match. Et une très
bonne Coupe du Monde, Olivon.
Très belle Coupe du Monde.
On a déjà quelques certitudes, on va en parler après sur les postes.
Super révélation. Vraiment,
très belle Coupe du Monde.
Ah oui.
Super révélation. Moi, j'étais un peu saoulé de voir qu'il s'était fait croquer comme ça.
Julien.
Je suis d'accord sur le fait que c'est pas que Vamina, mais enfin c'est quand même.
Ah bah c'est le truc qui change tout. À 14 change, contre 15, ça
ouais,
change tout.
Reste
surtout
encore,
presque une mi-temps. Il
reste encore
minutes.
Une demi-heure à jouer. Mentalement, ça change beaucoup de choses. Accessoirement, il faisait un très bon match, hein, il faut quand même le dire.
Oui, il a mis un essai.
C'est hyper frustrant parce que pour la première fois depuis longtemps, il se passait un truc. Il se passait un truc, on se dit
ah oui,
merde.
Nous on vibrait devant les.
Et là on se dit mais attends, et t'es déjà en train de te projeter. Hein, je sais pas si vous l'avez fait en direct, mais t'es déjà en train de te dire mais attends la demi ça peut être qui les Sudaf, mais attends
ou
les Sudaf,
Japonais.
On peut peut-être le faire. Oh, mais attends ils vont nous emmener où ce groupe dans lequel on ne croit pas du tout. Et en même temps là aujourd'hui on est en train de se dire alors au final on perd d'un point ce qui est quand même une sacrée maladie parce que ça arrive très souvent. Ça fait quand même des années qu'on perd régulièrement d'un point.
Ou de rien. Contre les Gallois la dernière fois dans
Gallois,
le tournoi.
Les
contre
Irlandais,
l'Irlande, le drop de Sexton à la dernière seconde
de
et on perd de rien.
On perd d'un point alors qu'on pense qu'on va les battre. Et puis il y a autre chose. Moi, je n'arriverai pas dans le sport de haut niveau.
malgré tout, se consoler en se disant « Bon, on a des bonnes bases pour dans 4 ans. » Mais 4 ans dans le sport de haut niveau, c'est quoi ?
C'est une éternité.
Je veux dire, moi, j'ai adoré Olivon, Dupont, Ntamack. C'est des super promesses. Mais si ça se trouve, ils se font les croiser dans 4 ans. On n'en sait rien. Et ça, donc, j'arrive vrai. Pas à me consoler en me disant « Dans 4 ans, on sera bon. » J'espère y croire. J'essaye.
Vous êtes bien sur Sud Radio, 19h41, ça vote beaucoup sur Twitter, alors ça a changé. Par contre, vous êtes toujours 40% à penser ni l'un ni l'autre. Par contre, vous êtes un peu moins positif, vous êtes 23% à penser que selon vous, le bilan des Bleus à la Coupe du Monde de rugby est positif. 23 positifs, 37 négatifs et 40, ni l'un ni l'autre. Et on a fait un heureux tout à l'heure, c'était Farouk de Toulouse. Eh bien, on va en faire un deuxième. Puisqu'il y a encore 4 places à gagner pour TFC Lyon qui aura lieu le samedi 2 novembre 2019 au Stadium de Toulouse. Bon, j'ai donné le chiffre à DJ Pif pour le premier. Tiens, allez, il y a une femme avec nous dans le studio. Lucie, quel appel gagne la 4 places pour TFC OL ?
Le troisième appel.
Troisième appel. Ah bah tiens, c'est un numéro de pilier, ça. Mais pas de pilier de bistrot, de pilier de rugby. Ça, il va falloir être très rapide. Le troisième appel gagne 4 places pour TFC OL au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David.
Et le vendredi, c'est sport et on parle rugby. Et pour le moment, vous êtes toujours 40% à penser que le bilan n'est ni positif ni négatif pour l'équipe de France à la Coupe du Monde. Vous êtes 23% à penser qu'il est positif et 37% négatif. Tu voulais poser une question, Clément ?
Oui, bah moi, je voulais avoir un peu l'avis des spécialistes sur un truc qui m'interroge. C'est suite à cette défaite, c'est quoi l'état d'esprit autour du rugby français aujourd'hui ? C'est on perd encore en quart de finale, on n'avance pas ? Ou alors, on fait un bon match, on fait une bonne performance, on perd de peu, donc c'est encourageant en vue des prochaines échéances.
Philippe Spanguero.
Alors, un peu malheureusement, j'allais dire, mais on craignait tellement cette Coupe du Monde que l'état d'esprit, il est positif, les instances et les dirigeants sont contents d'avoir joué ce quart. Plutôt content de la manière et de sortir la tête haute, mais moi je l'ai souligné souvent, c'est un peu le mal du rugby français, et ce qui nous a fait mal, c'est cette Coupe du Monde 2011 où il y avait déjà les prémices de d'une équipe de France qui allait pas bien,
avec une rouste mémorable contre la Nouvelle-Zélande.
Oui, et puis une défaite en Coupe du Monde en poule contre les Tonga, et puis ensuite on joue cette finale qu'on doit gagner sur le match, et donc ça a permis à tout le monde de dire que finalement le rugby français allait bien, et puis on a toujours retrouvé les réponses pour se dire que finalement ça allait plutôt bien et pas se poser les bonnes questions en profondeur. Et je l'ai dit souvent, donc c'est l'exemple à suivre pour nous dans l'hémisphère nord, avec un championnat de club et une équipe de France qui s'appuie sur un championnat de club, c'est l'équipe d'Angleterre qui surperforme en ce moment et qui est favorite au titre. Donc, pour revenir à la question, l'état d'esprit du rugby français, il est plutôt positif à l'issue de cette Coupe du Monde.
Tu es d'accord avec ça, Jim, avec l'approche de Philippe ?
Oui, absolument. Aujourd'hui, on a un effectif qui est hyper bon, quasiment à tous les postes. On peut les doubler, les tripler. On a vraiment des très, très, très bons joueurs. Le paradoxe de cela, c'est que ces gens-là ont un calendrier qui est infernal. Hein, ce sont des pros qui font 40 matchs par an sur 52 semaines. C'est beaucoup trop.
Ah oui.
Hein, c'est quasiment la seule nation qui joue autant.
Ah mais la France, c'est délirant. Entre la Coupe d'Europe, le top 14, l'équipe de France, les tests matchs d'automne, les tournées d'été, le tournoi destination, 40, c'est débile.
T'as 40 matchs par an sur 52 semaines, t'enlèves les vacances avec maman, machin.
Et la préparation.
Tu joues tous les week-ends.
C'est ça.
Tu te prends des mecs dans la gueule tous les week-ends avec la récup et tout ça. Et ça, tant que ça ne changera pas. Laporte est entraîneur, il le constatait. Aujourd'hui, les présidents, ils travaillent.
Enfin, moi, ce qui m'amuse chez Laporte, c'est qu'il fait le constat, il te dit il y a trop de joueurs étrangers dans le top 14. Mais quand il entraînait Toulon, il achetait tout ce qui sortait de chez les Blacks, les Box, les Wallabies, etc. Il achetait la planète entière. Il dit il y a trop de.
Je crois déconner quand même. Je crois qu'il y a des auteurs de livres autour de cette table. Il y a des tomes à écrire là-dessus. On est absolument tous d'accord.
C'est ce que je dis parce que je fais.
Julien.
On est tous d'accord.
Moi, je trouve, c'est bien qu'on en parle d'ailleurs, une petite parenthèse, mais on a un élément de réponse à la question de Clément sur les réactions de Bernard Laporte, qui quand même fustige complètement Vahamina.
Ah oui, là, il l'a assez défoncé.
Je,
là,
trouve, je suis assez d'accord sur le fond avec ce qu'il dit, mais quand tu es président de la Fédération française.
Tu fais ça dans le vestiaire ou dans le bureau?
Tu fais ça dans le vestiaire ou dans un bureau.
On est bien d'accord.
Par SMS, tu fais un truc, mais tu ne peux pas être dans cette posture-là. Et voilà, et donc ça veut bien dire qu'il est quand même, lui, dans un constat d'échec et de frustration, hein, parce que. Il le dit peut-être pas comme ça, mais aujourd'hui, il est frustré et en colère.
Alors, sinon, c'est sûr, surtout que trois jours avant, il écrivait dans la presse, moi je l'ai relaté sur les réseaux sociaux, que si la France se faisait sortir au quart, il serait satisfait du bilan de la France. C'est écrit. Hein.
Ça s'appelle ouvrir le parachute.
Ouais, mais sauf que derrière, il fait quoi? Il explose un mec en disant tu nous as volé notre demi-finale.
Oui.
On a le droit de le penser. Hein.
Oui, ça, on est bien d'accord.
Il n'est pas simple supporter, il est président de la Fédé.
C'est pas très fin de sa part.
Ça, on est bien d'accord.
C'est pas quelqu'un d'une grande finesse.
On ne peut pas tirer à boulet rouge sur une seule personne, alors qu'il y a un groupe de 30 mecs.
C'est sûr.
C'est pas possible.
Tu penses que ça peut changer dans l'avenir avec le changement d'équipe?
Il y a vraiment deux choses. Tu as vraiment le calendrier qui est vraiment un vrai problème. Hein,
ce que tu disais sur les 40 matchs par an, c'est énorme.
Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que les gens, ils sont en surmenage, vraiment. Mmh. Ils se blessent, etc. Okay. Et en face, on a un effectif qui peut égaler des grandes équipes.
Vraiment, alors,
vraiment, on l'a vu dimanche. Hein.
Justement, Philippe, 2023, c'est loin. Mais 2023, on a quand même des espoirs. Il y a quelques joueurs qui ont montré qu'ils avaient du jeu dans l'équipe de France. Je pense à Dupont, on a parlé d'Olivon, Ntamack, Penaud, qui est excellent. Il y a quand même de l'espoir pour 2023, pour toi?
On est obligé d'avoir de l'espoir, parce qu'on est champion du monde des moins de 20 ans, deux années consécutives.
Oui, c'est vrai.
Alors que les nations de l'hémisphère sud, et de temps en temps les Anglais, trustaient tous les titres mondiaux. Donc ça veut dire... concrètement qu'on a les meilleurs jeunes au monde depuis deux ans. Et en plus, on ne vole pas nos titres, on a une génération exceptionnelle. Mais c'est maintenant qu'on va rentrer dans le match du rugby français, c'est-à-dire ce que tu disais tout à l'heure, c'est cet écart de vision entre l'intérêt supérieur de l'équipe de France et les clubs. Où moi, le débat est très complexe, parce que moi, je comprends les deux parties, parce qu'un président de club qui rachète un club qui met énormément d'argent de sa poche tous les ans, il veut des joueurs compétitifs tout de suite, qu'il a à disposition tout au long de l'année, qu'on ne lui prend pas en équipe de France régulièrement, qu'on ne lui renvoie pas blessé. Donc, il faut réussir ce qu'a réussi à faire l'Angleterre. Hein, la Ligue et la Fédération se sont entendus. Ils ont réglé leurs différends. Je pense qu'on est capable de faire ça, mais que c'est le bon moment de le faire et de travailler plus en profondeur, parce que c'est maintenant qu'on va voir si nos jeunes de moins de 20 ans, qui sont encore une fois les meilleurs du monde, vont avoir du temps de jeu en top 14 et vont pouvoir
exploser
et puis grandir pour devenir de très grands joueurs qui seront
de potentiels champions du monde
de France de demain.
De potentiels champions du monde, oui.
Pour moi, en effet, il y a quelques joueurs qui sont déjà en équipe de France qui formeront l'ossature de cette équipe de France 2023, mais il y en a aussi une grande majorité qu'on n'a pas encore vu émerger.
Sûr, oui.
Et donc, c'est là tout l'enjeu aujourd'hui de notre championnat. C'est de réussir à donner la chance à ces jeunes qui ont prouvé qu'ils étaient les meilleurs du monde.
Julien, ouais, est-ce qu'il ne faudrait pas passer, par exemple, je vais être très provoque, hein, au top 10?
Ouais, alors ça,
pour libérer des gens. Je ne vais pas me faire que des amis chez les présidents de clubs professionnels.
Non, moi, je suis, tu sais,
mais parlons vrai.
Je suis forcément de par où j'habite. Hein, j'habite entre Lot-et-Garonne et le Gers. Je suis forcément supporter du SUA, donc je ne peux pas être pour ce que tu dis. Mais néanmoins, si on veut raccourcir le calendrier, il y a un moment donné, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut effectivement une élite plus resserrée. Moi, ce qui ne me rend pas très optimiste sur le fait qu'on règle ce problème de l'intérêt supérieur de l'équipe nationale par rapport à ce championnat qui s'appuie sur beaucoup d'étrangers. C'est que dans le foot, l'Angleterre a eu le même problème depuis des années, des décennies même. Le foot anglais, la première ligue, est devenue le championnat de référence au niveau du monde. Ça a vachement impacté...
Vu les droits télé qu'ils ont.
Bien sûr, on est sur 1,5 milliard, je crois.
Oui.
Ça a énormément impacté les résultats de l'équipe nationale. Ça a été largement décrié.
Enfin, ils ont quand même fini 4e de la dernière Coupe du Monde.
Oui,
ils
mais
ont...
parce qu'il y a des footballeurs talentueux. Mais à un moment donné, oui, ils ont le meilleur championnat du monde.
Ça,
et
c'est vrai.
L'équipe nationale n'est pas à ce niveau-là. L'intérêt économique, il est supérieur au reste. Donc, on n'arrivera pas, à mon avis, à régler ça. Après, il y a des vrais motifs d'espoir. C'est qu'on a... encore une fois, une génération qui vient d'être championne du monde, en tapant les Blacks et les Anglais, hein, quand même.
Oui.
Donc on a des vrais super joueurs. Et en faisant joueurs,
du très beau jeu, moi avec, je regarde à la
avec
télé.
Avec vraiment
très,
du jeu. D'ailleurs, il y a quelques joueurs qui ont déjà gagné un peu leur place sur la Coupe du Monde. Maintenant, je le redis, pour moi, 4 ans, c'est très très loin. Philippe vient de le dire, il y a des joueurs qui n'ont pas encore été identifiés qui vont sortir. Chez nos adversaires aussi. Moi déjà, j'aimerais bien voir des performances sur le tournoi Destination parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas emballé pour cette équipe au tournoi. Ça serait déjà un bon début.
Ah bah tiens, justement, Philippe Spanghero, c'est vrai que 2020, c'est avant 2023. Pas besoin d'avoir un doctorat en mathématiques pour le savoir. Tu le sens comment? En plus, on va jouer les Anglais, les Irlandais chez nous cette année. Tu le sens comment le tournoi?
Ben, je le sens plutôt bien parce que je vous dis j'ai l'impression que cette Coupe du Monde elle a permis de créer un groupe et un état d'esprit honnêtement que je voyais pas dans cette équipe. Je voyais une somme d'individualités quand je voyais tous les gens toutes les nations qui prétendent à des titres avoir créé un vrai groupe et un collectif. J'ai senti qu'une équipe se créait pendant cette Coupe du Monde. C'est souvent le cas, hein. On passe du temps en préparation ensemble, on souffre un peu plus que d'habitude ensemble, parce que les joueurs se croisent à Marcoussi, mais il y a quelque chose aussi qu'il faut faire évoluer en France, je crois, sur cette jeune génération, notamment, je ne sais pas si vous avez vu le discours de Guillaume Guirado, qui était plutôt significatif, assez simple, mais il disait quelque chose qui m'a marqué, c'est il disait aux jeunes de prendre des livres, de s'éveiller l'esprit quand ils sont à Marcoussi, parce que c'est pas idéal pour s'ouvrir l'esprit et puis échanger. Donc et je regardais quelque chose aussi sur les All Blacks en comparaison, les Anglais le font aussi, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur le développement personnel du joueur pour que les jeunes joueurs soient des bons individus et qu'ils apprennent à avoir une vision collective des projets, etc. Et c'est ce qu'il a beaucoup manqué à l'équipe de France ces dernières années. Et je trouve que là, on a vu quelque chose, notamment sur ce match contre le Pays de Galles. J'espère qu'ils arriveront à le faire vivre pour le prochain tournoi, parce qu'il y a des joueurs qui vont devenir des joueurs importants de ce 15 de France, dont on aura besoin. Donc je pense que le tournoi qui arrive, il va être très important, parce qu'on parle de 2023, mais en effet, il y a des échéances tout de suite, et on se construit quand même beaucoup mieux dans la victoire que dans la défaite.
On se construit mieux dans la victoire que dans la défaite. On arrive au bout de cette émission. Selon vous, le bilan des Bleus à la Coupe du Monde de rugby est-il positif, négatif ou ni l'un ni l'autre? 23% positif, 37% négatif, 40% ni l'un ni l'autre. Et on a notre gagnant. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio. Vous avez gagné 4 places pour TFCOL. On parle toulousain ici, le TFC. Ce sera le samedi 2 novembre 2019. Le week-end commence bien?
C'est formidable.
Vous allez supporter qui, le TFC ou l'OL?
Allez, on va dire les Lyonnais.
Non.
Là, vous désespérez Julien Leclerc et Lucie Brasseur. Là, vous êtes désespéré entre Lyon et TFC?
Ça me laisse indifférent.
Ah, d'accord. Et toi, Jim?
Encore pire. Allez, le Stade français.
Eh bien, bravo, Mathieu. On va vous envoyer les places par courrier. Félicitations. Vous avez gagné 4 places pour TFC Lyon le samedi 2 novembre 2019. Vous vouliez dire un dernier mot, Jim et Clément?
Je voulais féliciter Thomas Lombard qui a été nommé directeur général au Stade français. Et je suis certain qu'il va ramener toutes les valeurs que Max avait mis à l'époque.
Et toi, Clément?
Moi, je voulais saluer Jean-Baptiste Guégan qui a coécrit ce livre avec moi, Une histoire populaire du PSG. Salue également Moustapha Boulim et Paris United pour la confiance et les éditions Hugo Sport.
Eh bien, merci à tous. Le meilleur succès pour ce superbe livre de suite, le Love Music d'Yvan Cujous qui reçoit Pierre Lapointe.